Bonjour à tous, merci pour votre présence pour cette nouvelle rencontre protophilo. Il s'agira ce soir de musique bruitiste, de noise, et pour en parler, nous avons l'immense honneur d'accueillir Pauline Nadrini. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1. Vous avez soutenu une thèse en 2014 sous la direction d'André Charac, intitulée Le concept d'objet sonore, le problème de la perception dans la recherche musicale schaefferienne. Vous travaillez et publiez notamment sur le thème de la perception sonore et de la musique expérimentale. Catherine Guède, vous êtes chargée de cours à l'École de philosophie donc ici, de l'Université Paris 1. Vous préparez actuellement une thèse sous la direction de Daniel Cohn intitulée « Par-delà le principe de plaisir à l'écoute des musiques extrêmes ». Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre ouvrage à paraître en avril aux éditions Musica Falsa. Et cet ouvrage que vous avez coécrit et qui est intitulé « The most beautiful ugly sound in the world » à l'écoute de la noise. Et vous évoquerez également le thème de l'écriture puisque vous poserez la question « Comment écrit-on à deux ?» Vous pourrez poser vos questions à Pauline Nadrini et Catherine Guède tout au long de la séance, rencontre qui sera suivie d'un petit apéritif auquel vous êtes tous conviés. N'hésitez pas également à regarder les ouvrages que nous avons mis à votre disposition sur ce thème. Je me permets de vous montrer celui-ci, Perspective philosophique sur les musiques actuelles. C'est un ouvrage qui est sorti en 2017, c'est un ouvrage collectif. Et sous la direction de Clément Canon, et dans lequel vous aurez, avant d'avoir le plaisir de lire l'ouvrage de nos deux invités, vous pourrez lire un article qu'elles ont coécrit également, et qui s'appelle « L'écoute de la harsh noise, de la physiologie à l'esthétique ». Je m'arrête là et vous laisse la parole. Merci.
Merci à vous. Catherine, que je... J'ouvre en remerciant la bibliothèque Cuisin pour cette invitation à Protophilo. Merci à vous d'être présents. Je vois qu'il y a des étudiants à nous dans la salle. Je suis bien contente de vous voir ici. Je pense que... Qu'est-ce que la harsh noise? De quoi allons-nous vous parler? Alors peut-être que certains sont là parce qu'ils savent déjà ce que c'est. D'autres parce qu'ils en sont très curieux. D'autres peut-être... ignore totalement l'objet de cette recherche. Donc ce qu'on vous propose, de manière un peu abrupte, c'est de vous faire écouter un peu de harsh noise, précisément, pas trop fort, ne vous inquiétez pas, pour commencer sur de bonnes bases et s'entendre un peu sur ce dont il va être question ici. Donc une pièce d'un des artistes les plus emblématiques de ce courant, un japonais dont on va pas mal parler aujourd'hui, je pense, qui a pris un nom qui est inspiré d'une figure éminente de l'art contemporain, Mertz Poe, donc l'un des artistes noise les plus connus. Première pièce qui s'appelle donc, qui est tirée d'un album qui s'appelle Marmo et qui s'intitule Parallela One.
Thank you.
Donc, aujourd'hui, bon, ce qu'on aimerait faire, c'est vous présenter un petit peu le projet de ce livre, The Most Beautiful Ugly Sound in the World, qui est à paraître aux éditions Musica Falsa. Mais peut-être avant de vous parler de la manière dont on a conçu ce projet, son rapport avec l'esthétique, avec la question de l'écoute, ce premier extrait peut nous donner l'occasion de poser quelques éléments de définition. Rapidement, qu'est-ce que cette pièce nous donne à entendre et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la noise, et plus spécifiquement sur un type de noise particulier qui nous a intéressé, c'est-à-dire la harsh noise. Harsh, en anglais, c'est rude, abrasif, agressif. On va le voir quand on parle de harsh noise, c'est pas forcément dans un sens péjoratif qu'on emploie ce petit adjectif, c'est peut-être plus au sens de rugueux, rude, que clairement agressif, mais bon, ça on va s'y intéresser peut-être après. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a plein de façons de faire du bruit. On peut faire du bruit blanc, on peut utiliser le bruit au sens d'une saturation, on peut utiliser le bruit au sens un peu anecdotique, avec des sons qui font penser à des moteurs, des objets dont on n'arrive pas très bien à déterminer l'origine. Il y a une grande variété de compositions, on l'entend, dans ce type de pièce, et en même temps, elle semble contrevenir à tout ce qu'on attend d'une pièce de musique traditionnelle. On entend des éléments légèrement mélodiques, du moins on a un son sinusoïdal qui semble correspondre à une certaine fréquence, à une certaine hauteur, mais il n'y a pas de forme musicale attendue, la rythmicité semble très chaotique, c'est très difficile d'avoir a priori un horizon d'attente quant à ce qui va se produire dans les prochaines secondes. Les mécanismes musicaux traditionnels de la tension, de la résolution sont comme annihilés. Donc à la fois on sent qu'il y a une certaine recherche dans la composition, que ce n'est pas simplement une masse chaotique et informe, mais en même temps, encore une fois, ça contrevient à tous les schèmes d'écoute traditionnels. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui vient différencier ce type de composition, qu'on va appeler donc harsh noise, ou la noise en général, de musique dite bruitiste, qu'on a pu composer dès le début du XXe siècle. La démarche n'est pas exactement la même. Alors, bien entendu, il y a des artistes noise qui se réclament de personnes comme Luigi Russolo, du projet bruitiste des futuristes, ou même de Pierre Schaeffer. Il y a des connexions, évidemment. Un artiste noise comme Zbigniew Karkowski est extrêmement inspiré par ce type de musique. En même temps, il y a une approche assez différente. Peut-être, Catherine, tu as pas mal de choses à développer là-dessus dans ta thèse, donc je te laisse la parole sur ce point, cette différenciation.
Ouais, peut-être juste préciser aussi que c'est un peu un de nos défis dans cet ouvrage de cibler la harsh noise par rapport à d'autres genres, parce que le sujet qu'est le bruit en musique ou la noise comme genre ont déjà été pas mal abordés, mais les ouvrages qui en traitent, que ce soit Egarty ou Torben Sangild ou Johanna Demers, traitent du même coup musique concrète, musique électronique, cage, noise rock, et dans le noise rock mettre quelque chose d'assez vaste, My Bloody Valentine ou Sonic Youth, c'est la même chose. Et donc nous on a voulu isoler une forme de noise qu'on pourrait dire la plus pure, celle qui est où le bruit ne vient pas brouiller une mélodie, mais où c'est le brouillage lui-même qui fait musique ou qui fait œuvre. Et donc on s'est attaché à définir un peu cette spécificité, et il me semble que pour définir cette spécificité, il faut repasser par une des définitions du bruit qui est celle qui est issue des théories de l'information, puisque quand on parle de bruit, on parle soit de ce qui s'oppose à la musique, le son que fait spontanément quelque chose, une voiture ou la mer, ou alors d'un son indésirable, donc une définition plus subjective et fluctuante. Ou alors on a la définition issue des théories de l'information qui considère que le bruit est ce qui brouille un signal et ce qui vient empêcher la compréhension de ce signal. Or, il me semble que, justement, dans la harsh noise, on hérite de cette définition qui est celle du brouillage par opposition à la clarté du signal. Mais, et à mon sens, c'est aussi ce qui est dominant dans le noise rock ou dans le rock, c'est cette tension entre la clarté, par exemple, d'une mélodie ou d'un arrangement, et le son qui est sali par un détournement de l'amplification, par les effets. Mais ici, on garde le brouillage, et c'est ce brouillage lui-même qui fait œuvre, à tel point que l'opposition signal-bruit devient caduque, ouais, presque comme on l'entendait dans ce morceau aussi, où effectivement il y a cette espèce de mélodie à l'oscillateur qui se dessine, mais qui n'est pas mise en avant, qui vient se mêler au bruit d'ensemble. Donc on a voulu prendre cet objet parce qu'il nous permettait de traiter de la manière la plus pure, je pense, les problèmes que pose l'écoute, puisque c'est ça l'angle qu'on a choisi. Peut-être que tu veux dire quelque chose de l'anecdote.
Oui, avant d'en arriver là, peut-être préciser sur ce que tu disais sur la question de l'opposition entre signal et bruit. Ce qui est vraiment frappant dans la noise et ce qu'on essaie de décrire dès le début de l'ouvrage, c'est qu'il y a une sorte de passage à la limite qui se produit. C'est qu'on va sortir de l'opposition signal-bruit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des éléments saillants, des formes musicales qui vont apparaître. Encore une fois, ce n'est pas un pur chaos, morceau de noise. C'est que la distinction n'est plus opérante. Et c'est ce qui fait qu'il y a une démarche presque absolutiste dans la noise, qui est que tout son est potentiellement valable. Il n'y a plus cette différence de principe entre ce qui doit être musical et ce qui n'a pas à l'être. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut retrouver dans un morceau de Merzbow des sons qui ont une fréquence donnée et qui peuvent, dans leur enchaînement, créer presque une mélodie. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui est mélodique et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est que dans la mesure où la distinction entre signal et bruit n'est plus valorisée dans la démarche esthétique de ces compositeurs, dans leur démarche artistique, eh bien, tout est potentiellement musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je reparle de Karkowski parce qu'on l'a mis en exergue de notre ouvrage. Il dit que nous sommes tous composés de sons, l'univers entier est composé de sons. Il y a donc presque une position, absolutiste, universelle. Tout est sonore, le monde est sonore, et la noise, quelque part, va se charger de faire entendre la sonorité du monde. Donc, il y a un côté dans la noise industrielle, plus particulier, lié aussi à une certaine culture urbaine, mais il y a aussi ce fond-là qui fait que dès lors qu'on refuse cette distinction entre le signal et le bruit, tout devient potentiellement objet de musique. Ça, c'est vraiment très important. Donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment écoutons la noise dans la mesure où il y a un geste très radical qui est opéré sur les structures musicales, sur la manière d'aborder la composition, comment l'écoute peut-elle aborder un tel objet? Selon quels horizons, selon quelles attentes précises, selon quelles normes également, puisque la question des normes est au cœur de notre essai. Et la manière dont on est arrivé à se poser cette question, en fait, est partie d'une anecdote un peu rigolote qu'on relate dans l'introduction du livre. Donc, je vais faire spoiler, comme on dit, mais je vous la donne quand même. J'avais organisé un festival avec des amis en Belgique. C'était un festival sur le thème des rapprochements entre musique ancienne et musique contemporaine et expérimentale. C'était assez amusant parce qu'il y avait aussi bien des gens qui faisaient de la noise et du synthétiseur modulaire que des gens qui arrivaient avec des flûtes baroques et qui jouaient des fantaisies du 15e et du 16e siècle. Et il y avait quelqu'un dans l'assistance qui était donc un performeur de noise qui faisait du synthétiseur modulaire et qui avait écouté un concert de flûte baroque, qui avait écouté une flûtiste qui avait fait un magnifique concert, qui avait joué des fantaisies de bois mortier sur une flûte haute terre en bois, enfin, chose de magnifique. Et au bout d'une heure de concert, il vient la voir dans les loges et il lui dit « Oui, c'était très bien, mais j'aime pas ton instrument parce qu'il y a, un creux dans la bande de fréquence, c'est mal réparti, c'est toujours au même endroit dans le spectre, ça me gêne un peu, c'est un peu lassant. » Alors bon, la musicienne ne l'a pas très bien pris, puis elle était un petit peu fatiguée aussi. Moi, j'ai entendu cette remarque, au-delà du fait que ça manquait peut-être un peu de tact et que tous les auditeurs de noise ne la poseraient pas. Je trouvais que c'était très révélateur parce que ce musicien, quelque part, attendait du son, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le son soit dans une sorte de plasticité totale. Le synthétiseur modulaire, c'est ce qui permet d'explorer toutes les fréquences, d'avoir un son complètement ductile, complètement plastique, qu'on va manipuler ad libitum, là où un instrument, par définition, ben, ça a un timbre, et un timbre, ben, c'est quelque chose qui est limité dans le spectre, qui a une certaine morphologie, hein, qui se répartit d'une certaine manière, et qui peut faire certaines choses et d'autres non. Et dans cette incompréhension, il me semblait que ça disait quelque chose en creux de l'écoute noise, de ses attentes, de la manière dont elle se positionne par rapport au son. Je crois. Donc j'avais parlé de cette anecdote à Catherine en disant c'est rigolo, bon, c'était sur un mode un petit peu humoristique, et puis on s'était dit mais est-ce qu'on ne tient pas là quelque chose sur le plan esthétique, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire quelque chose là-dessus sur cette écoute qui attend du son, cette plasticité totale, et puis aussi qui a un rapport presque physicien au phénomène musical, c'est-à-dire j'aime pas ce que j'écoute parce que c'est mal réparti dans la bande de fréquences. qu'est-ce que ça veut dire de viser la musique de cette manière-là, et non pas en disant tu joues juste ou faux, je trouve que tu as bien interprété, ou je trouve que là, le développement harmonique est bien pensé ou pas. Non, c'est mal réparti dans la bande de fréquence. Donc, d'où ce rapport aussi de l'acoustique à l'esthétique, qui semblait un peu abrupte et qu'on voulait étudier plus précisément.
Et peut-être dire quelques mots aussi de la manière dont ce projet s'inscrivait dans notre parcours. C'est un objet un peu périphérique pour chacune d'entre nous, puisque Pauline travaillait sur l'objet sonore chez Pierre Schaeffer en thèse. Donc la noise, effectivement, a de nombreuses références à la question de l'objet sonore, même si c'est une manière de traiter le bruit qui est bien distincte de celle de Schaeffer, où l'objet, où le son est décontextualisé, coupé de sa source, écouté pour lui-même. Mais bon, il y a quand même une filiation. Et moi, de mon côté, je travaillais sur le métal extrême, donc le black metal, le hardcore, tous ces genres qui partent du rock mais qui s'en éloignent pour en subvertir les formats et pour travailler une sorte de mise à mal de l'écoute. Et je m'intéressais à la manière dont l'écoute évolue au contact de ces musiques. Et la noise était une sorte d'aboutissement de ce parcours qu'on a retrouvé d'ailleurs chez les auditeurs. De nombreux auditeurs viennent de ces musiques-là issues du rock et arrivent à la noise comme une sorte de terme d'un parcours de recherche de l'inouï ou de ce qui surprendra le plus. Donc on avait chacune une approche un peu différente, je pense, de l'objet, mais en même temps, il nous intéressait de la même manière. Mais je pense que ce bagage nous a aussi été, a été fructueux pour poser certaines questions, et on va voir que la différence de notre parcours s'est retrouvée aussi chez les auditeurs, puisque ce qui nous intéressait, c'était de nous demander s'il y avait en dehors de la noise comme genre, une écoute noise, donc une manière d'écouter qui serait articulée à ce genre, produite par ce genre, et qui pourrait du coup s'appliquer à une flûte baroque. Et pour considérer ces écoutes, on a voulu partir de témoignages, donc ne pas déduire l'écoute de la musique en étudiant des pièces et en se disant « bon, ben voilà, regardez comme ça nous déroute, regardez, c'est chaotique, donc l'écoute est forcément déroutée ». Non, on a voulu partir de témoignages d'auditeurs, voir comment ces auditeurs s'approprient cet objet, comment l'écoute aussi peut évoluer au fil du parcours des auditeurs. Et donc pour ça, on a essayé de recueillir autant de matériaux que possible, d'une part en faisant circuler des questionnaires en ligne par divers biais, par le biais de festivals, de labels, et avec des questionnaires qui portaient à la fois sur l'appréhension formelle de la musique, on va dire, est-ce qu'il y a une linéarité qui est perçue, est-ce qu'il y a une structure qui est perçue, mais aussi l'appréciation esthétique, qu'est-ce qui fait la qualité d'un morceau, les questions de plaisir et de douleur. Ça, on y reviendra, mais on a abordé la noise à travers un vocabulaire esthétique assez basique, plaisir esthétique, douleur, inconfort. On a voulu mobiliser des concepts traditionnels, pas seulement parce qu'on a un parcours de philosophe toutes les deux, mais aussi parce que ça nous semblait peut-être un peu violent de couper cette musique de toute tradition, de penser que cette musique est irréductible à quoi que ce soit d'autre. Or, les discours qui entourent ces musiques sont souvent ces discours complètement déshistoricisés, qui considèrent que la noise est une nouveauté radicale, qu'elle déstabilise tout, et que c'est un genre idiosyncrasique qui suscite la mise à mal, le chaos, la déstabilisation, mais qui aurait rien à en dire. Or, justement, si c'est un genre peut-être qui construit des formes de chaos, ou même l'expérience, elle, reste verbalisable, conceptualisable, et c'est ce qu'on a voulu faire en mobilisant des notions aussi simples que celle du plaisir esthétique et de la douleur. Et on a concilié cette approche assez quantitative, puisqu'on a recueilli 99 questionnaires, avec une approche plus qualitative, où là, j'ai vraiment passé du temps avec des personnes pour faire des entretiens, et on a parlé à des performeurs, des musiciens, français et américain. J'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller à Los Angeles, donc là-bas j'ai fait des entretiens. On a essayé de choisir plusieurs générations, donc on a eu un des premiers, un des pionniers, J.X. Jupiter Larsen, qui lui a commencé dans les années 70, donc à l'époque on ne parlait pas encore de ce genre de musique. On considère généralement c'est les années 90, les grandes années de la Japanoise, mais donc on a eu
on parle de Japanoise.
Oui, on parlera de japonaise. Et puis, une personne, une Parisienne, qui a commencé à jouer il y a quelques années, qui s'appelle Mariachi, qui joue à la guitare. Donc, on a essayé d'avoir plusieurs générations et puis aussi plusieurs manières de faire de la noise, puisque la noise n'a pas d'instrumentarium fixe. On peut faire du bruit avec n'importe quoi. Et là, par exemple, le JX Jupiter Larsen, lui, travaille avec des objets de la vie courante en... Il moud des choses, c'est le bruit de la destruction de l'objet qui fait la performance. Oui, voilà, il moud des objets, ou il perce des trous. Voilà, toujours qu'il y ait une narration. Et Mariachi, elle, pour le coup, a simplement une guitare, et c'est avec cette guitare qu'elle fait son bruit. Donc, on a voulu avoir quelque chose d'assez représentatif de la variété de la noise et aussi de couvrir une période de temps assez vaste. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur les questionnaires?
Oui, sur la question de comment on a créé ces questionnaires, justement. C'est ce qui, avant des entretiens, c'est vraiment de là qu'on voulait partir, comme l'a bien dit Catherine. C'était l'idée qu'on ne voulait pas traiter de la noise dans une position de surplomb. Peut-être qu'il y a aussi là une sorte de tendance des philosophes à aborder la musique à travers le commentaire des œuvres, de manière un petit peu décontextualisée, en se disant, ben voilà, j'ai accès à une œuvre, ou alors parler peut-être de l'écoute noise, là aussi en surplomb, en disant, comme tu disais, que l'œuvre prescrirait une certaine écoute, donc dans la mesure où c'est chaotique, dans la mesure où c'est erratique, où la distinction signal-bruit n'est plus pertinente, et bien dans ce cas-là, on a forcément une écoute qui se construit en symétrie. Or, quelque part, l'exemple de cet auditeur qui manquait de tact nous avait tellement intrigués qu'on s'était dit, il faut aller écouter ce que nous disent les performeurs et les auditeurs de noise. Il y a une mine de choses à découvrir. Bon, après, en traînant pas mal dans ces milieux, parce que même si Catherine ne le dit pas, il y a aussi une pratique musicale
des deux côtés.
Catherine, plutôt du côté du drone, de l'expérimentation en guitare, moi plutôt du côté de la musique électroacoustique. Mais c'est un bien grand mot. Disons qu'on avait en tout cas un pied chacune dans ces milieux-là, qu'on entendait autour de nous des discours souvent construits, intéressants, parfois désarmants, et loin des attentes qu'un philosophe aurait pu avoir sur ce type de musique. Donc très vite, on s'est dit qu'il faut construire un questionnaire bien pensé pour aborder cette musique-là. Alors, il y a eu d'autres... Il y a toute une tendance actuellement en esthétique, en cultural studies, en sociologie de la musique, à produire des questionnaires d'écoute. On a pensé notamment à la démarche de Martin Kaltenecker qui a fait ce genre de choses avec Maël Guédon, mais plutôt sur une écoute de musique classique ou romantique traditionnelle, en tout cas de musique dite savante. Il y a aussi toute une approche vraiment sociologique qui va opérer ça. Nous, notre démarche, elle était un petit peu singulière. Comme l'a dit Catherine, on a posé des questions finalement assez traditionnelles, en tout cas qui relevaient de concepts esthétiques assez traditionnels. Beauté, laideur, évolution de l'écoute et éducation de l'écoute au fil du temps, des questions comme celle du plaisir esthétique... Encore une fois, parce qu'on ne voulait pas partir du principe que c'était quelque chose de radicalement différent et qu'il fallait par principe, du coup, des questions radicalement différentes. Et c'est là, je crois, que notre travail, en tout cas les résultats nous ont surpris. C'est que bon, sur certains points, il y a effectivement des points de rupture, de décrochage, notamment sur la question du corps. Je crois la manière qu'a l'auditeur de noise de penser le corps écoutant. Et de se le représenter. Là, il y a quelque chose de très nouveau. Mais sur beaucoup d'autres questions, comme celle de l'éducation, par exemple, de l'écoute, eh bien, on a des réponses qui rentrent dans un discours assez traditionnel sur l'apprentissage, sur l'éducation du goût et l'éducation des sens, qui d'ailleurs a fait qu'on a pu mobiliser pour éclairer ça des auteurs aussi classiques que David Hume. Donc, ou même Descartes. Ce questionnaire, c'était pas un questionnaire sociologique, encore une fois, même si on a pu poser des questions sur le background des auditeurs, c'était plutôt pour situer leurs goûts musicaux, leur familiarité d'écoute,
des parcours personnels.
On se rend compte que les auditeurs de noise ont tous une très grande culture musicale, éclectique, qu'un auditeur de Noise, vous lui demandez ce qu'il écoute, il va pas vous dire j'écoute du rock et de la musique expérimentale, il va vous dire qu'il écoute de la no wave, du punk de telle époque, qu'il écoute du psyché, qu'il écoute du hardcore.
Toujours qualifié, c'est toujours très qualifié, très précisément. Hardcore années 80.
Oui, voilà, même. Voilà, pas hardcore, c'est trop général encore. Ouais. Voilà. Ça, c'était intéressant. Mais outre ces questions de background qui permettaient de situer et qui d'ailleurs nous disaient quelque chose d'un point de vue sur le plan esthétique, au fond, ce qui nous intéressait, c'était encore une fois cette dimension esthétique. Comment écoute-t-on la noise? Quel type d'écoute? Y a-t-il un type d'écoute noise, plus particulièrement, qui permet d'écouter aussi bien Merzbow que les flûtes baroques, justement? Alors, ce questionnaire, il a posé un certain nombre de problèmes. Bon, je ne sais pas si c'est l'occasion de s'étendre là-dessus aujourd'hui.
Ouais, préciser un peu sur... en effet, ce n'était pas un questionnaire sociologique dans la mesure où on ne voulait pas collecter des données sur l'origine sociale, sur... les goûts selon un certain milieu. On en a emprunté un petit peu à une sociologie, à la sociologie des amateurs de Antoine Aignon qui s'oppose à Bourdieu dans sa méthode, qui s'oppose à l'idée selon laquelle les acteurs ne savent pas ce qu'ils font, sont toujours déterminés, il faudrait décrypter leur discours pour voir les déterminations qui pèsent. Là, au contraire, il s'agit de montrer que notamment chez les amateurs, les gens savent très bien ce qu'ils font et qui développent eux-mêmes des techniques, des stratégies pour développer leur passion et pour cultiver leur plaisir esthétique. Donc il y avait dans cette volonté de laisser la parole aux auditeurs aussi la volonté de voir comment ces stratégies d'écoute se déploient, comment le plaisir esthétique est cultivé, et aussi de faire confiance à la théorisation interne qu'ont ces auditeurs. Et on a vu qu'il y avait une réflexivité très importante qui nous a... servi de matière souvent pour notre théorisation à nous. Mais par rapport à Antoine Aignon, nous, ce qu'on cherchait, plutôt comme le fait Martin Kaltenecker, c'était des régularités qui nous permettent un peu de construire des modèles. Et à partir de ces régularités, de choses qu'on retrouve d'un discours à l'autre, des métaphores par exemple, métaphores de la tempête, du combat, qui décrit l'écoute en concert, de mobiliser des modèles issus de l'histoire de la philosophie, tels que par exemple le sublime, voir si on peut encore parler de sublime pour ces expériences immersives que sont les concerts de Noise. Parler aussi, oui, de l'éducation de l'écoute chez Hume. Donc notre méthode, c'était plutôt ça, c'était repérer des régularités dans les discours et puis voir quel type de modèle esthétique on pouvait mobiliser.
Oui, je crois que c'est important, l'idée de faire confiance au discours, parce que quelque part, l'expérience brute... Je sais pas exactement ce que c'est, je sais pas si j'y ai accès. En tout cas, j'ai accès à des discours d'écoute. Et ces discours, on a été frappés par leur technicité et par la bonne volonté de beaucoup de personnes qui répondaient au questionnaire à décrire son expérience. C'est-à-dire qu'on a eu droit à des descriptions extrêmement fouillées, extrêmement précises, souvent belles d'ailleurs, poétiques, de leur expérience de la noise. Et que ces discours avaient des éléments déjà de pré-théoriques ou déjà théoriques pour certains, tout à fait présents. Donc ça, c'était intéressant. Bon, nous, on s'en doutait déjà parce qu'on, ayant un pied dans ce milieu-là, on entendait ces discours déjà, on le savait. Mais en tout cas, ça venait complètement à l'encontre de l'idée qu'une musique noise... Alors, paradoxe est toujours un peu amusant, enfin en tout cas l'oxymore, que ce type de musique était finalement une musique pour un public lui-même brouillon, brut, très radical, mais quelque part peu qualifié dans son expérience esthétique. Au contraire, et quelque part, plus la noise se faisait abrasive, extrême, plus on allait avoir un discours aussi détaillé, subtil, qui visait à décrire avec une extrême acuité l'expérience esthétique. Donc ça nous a vraiment frappé, et du coup c'était une mine d'or du point de vue de la philosophie esthétique. C'est qu'on avait des pages et des pages de discours à analyser et qui nous fournissaient des métaphores qui allaient devenir dans leur régularité des modèles. Et bon, là c'est vrai que c'est à la fois par bon sens et aussi peut-être un peu par défi. On a apprécié de renvoyer ces régularités qui se dessinaient et qui créaient peut-être des profils d'écoute à des modèles esthétiques très traditionnels. On a entendu beaucoup parler on a lu beaucoup dans les les comptes rendus d'écoute qu'on a recueillis de chatouillement, par exemple. L'idée que certains sons chatouillent l'oreille de l'auditeur, que ce chatouillement est à la fois agréable et désagréable, bah comment, quand on a étudié les passions de l'âme, ne pas penser à Descartes et quelque
puis,
part...
Il y avait l'amygdale.
Oui, que ça chatouillait l'amygdale dans le cerveau.
Ouais, parce qu'on a eu des descriptions ça. Physiologiques très précises, très parfois précises. Un peu fantaisistes, mais qui décrivent une image correspondant à l'expérience, en tout cas, même si elles ne décrivent pas l'anatomie en tant que telle. Et là, on avait des réponses assez surprenantes, comme l'amygdale qui vibre selon certaines fréquences. Et donc, bon, dans ces descriptions, on avait l'idée d'un... Ce qui nous a intéressé, on va peut-être... On a plusieurs angles dans le livre qui permettent de poser ces modèles. On a abordé la question du corps dans l'écoute. Et là, en effet, on avait d'un côté l'image d'un corps assez fragmenté, le corps de l'anatomie, qui est celui où, en effet, certaines fréquences font vibrer certaines parties du corps. Donc là, c'est plus le modèle du corps sans organes. Enfin, tu veux peut-être en parler un petit peu
On peut en parler maintenant, oui. Il y a quelque chose qui nous a frappé assez vite. Donc, il y avait plusieurs types d'écoute hein, et qui s'organisaient autour du rapport au corps. Alors, ça rejoignait un peu, c'est quelque chose qu'on a décrit dans l'article qui a été publié aux éditions de Latour. Ça rejoignait un petit peu une distinction entre ce qui serait la noise rock et la harsh noise, qui est peut-être plus électronique. On avait un type de rapport au corps effectivement très, très fragmenté, où le corps est visé à travers des intensités particulières. C'est-à-dire qu'on a des discours où on va nous dire à telle fréquence ça vibre dans telle partie du corps, à telle autre fréquence dans telle autre partie, avec encore une fois des schémas parfois assez, assez fantaisistes. Hein. On a eu des réponses comme « j'aime parce qu'à cette fréquence-là, ça va vibrer dans mes dents », ou là, ça va être les sinus qui vont être impliqués, dans certains cas l'estomac ou la verge, etc. Donc on a eu toutes ces choses-là.
Le nez qui va se décrocher.
J'ai l'impression que mon nez va se décrocher, etc. Donc un schéma corporel qui est intéressant parce que ce n'est pas un schéma, on va dire, organique ou physiologique, mais c'est un corps où on a des zones d'intensité. Alors ça faisait effectivement penser à quelque chose qui a été développé par ailleurs. Par Deleuze et Guattari, c'est-à-dire l'idée d'un corps sans organes, un corps qui ne fonctionne plus comme organisme, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus, où les parties ne sont plus en relation dans un tout, mais qui sont encore une fois ces zones, ces plans d'intensité différents, mais qui ne sont pas connectés les uns aux autres. En fait, c'est quelque chose qui est pris à Artaud, hein, le corps sans organes, l'idée d'un corps d'intensité, fait de lieux d'intensité différents. Et alors, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que dans ce type d'écoute, ce qui est l'objet de l'expérience esthétique, ça n'est pas que la musique elle-même, ce ne sont pas que les sons, c'est le corps vibrant. C'est-à-dire que l'appréciation esthétique porte tout aussi bien sur ce qui est entendu au sens traditionnel, j'entends tel ou tel son, ça me plaît, que sur j'apprécie parce que cela a tel effet sur moi. Alors, on revenait ici à l'idée bien traditionnelle que la musique est un art des effets, mais dans un tout autre sens qu'au sens classique et rhétorique. C'est plus un art des effets au sens des émotions, mais vraiment au sens purement physiologique. Alors ici, intensif, ça me plaît parce que mes dents vibrent. Alors, on aurait pu dire que c'est fantaisie. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est cette représentation fantasmée du corps de l'auditeur noise. Et là, on avait vraiment des régularités frappantes à ce sujet-là dans les écoutes. Je pense que c'est aussi lié à tout un courant de la noise, notamment japonaise. On a écouté Merzbow tout à l'heure, qui a aussi cette pratique parallèlement à la musique. Merzbow, il est amateur de bondage. Donc, je crois aussi que ça s'inscrit dans certaines pratiques culturelles autour de la noise. Il y avait une vraie cohérence là-dedans. Il y avait un autre modèle corporel qui était tout aussi puissant, qui renvoyait peut-être plus à la noise rock, c'était l'idée d'un corps immergé et qui relevait plutôt de la question du modèle du sublime. Mmh. Ça, c'est plutôt toi qui as écrit sur ces choses-là.
Alors, quand tu dis du noise rock, c'est plutôt que... Donc, c'est là qu'il était utile de voir de quel horizon venaient les auditeurs, qu'est-ce qu'ils écoutaient d'autre, parce qu'on a vu que ce modèle, en effet, du corps fragmenté venait plus... d'auditeurs ayant un background en musique électronique ou musique concrète, donc quelque chose qui aurait peut-être plus une écoute distante, qui produit des objets, y compris le corps lui-même comme objet. Ouais. Et de l'autre côté, quelque chose de plus dionysiaque du côté des auditeurs qui, eux, ont des origines plus punk, rock. Et donc là, c'est un autre imaginaire du corps. Dans tous les cas, c'est un imaginaire du corps. Et ce qui était intéressant aussi, enfin, ce qui nous a pas mal fasciné, c'était de voir que souvent l'imaginaire, quand il est mobilisé à propos de la musique, est mobilisé pour qualifier la musique elle-même. Les sons, l'impression qu'ils donnent, de manière métaphorique, on va qualifier les sons pour parler de l'histoire qu'on a l'impression d'entendre. Ou... Et là, l'imagination n'est pas du tout mobilisée à propos des sons eux-mêmes, mais à propos du corps de l'auditeur. Et c'est dans cet imaginaire du corps qu'on a pu repérer ces modèles, donc du corps fragmenté, et un autre modèle qui était plus celui du corps résistant. Donc là, on a eu pas mal de métaphores de la tempête, du combat, de l'épreuve, vouloir un avant et un après, avoir la fierté d'avoir résisté et
plonger dans une masse de sons, immerger aussi.
Oui, aussi des images de l'immersion beaucoup. Et ce qui était intéressant ici, c'était la question du rapport au risque qui forcément faisait penser à la question du sublime, hein, puisque le sublime est ce plaisir du risque dépassé ou du risque qui n'en est pas véritablement un. Et là, le rapport au sublime se greffait sur une question d'éducation de l'écoute, puisqu'on voyait que souvent, ce plaisir-là était un plaisir acquis par des auditeurs qui avaient compris qu'en réalité, ils n'étaient pas en danger. C'est pas parce qu'il y avait une masse sonore à haut volume autour d'eux que quelque chose allait leur arriver. Mais il y avait le plaisir de constater la résistance, alors même que le risque était imaginaire. Mais donc ici, le sublime se construisait dans ce rapport à une imagination et à ce rapport à des peurs. On a vu que la peur était assez importante. Beaucoup d'auditeurs qui racontaient comment ils avaient vaincu leur peur, avec aussi tout l'imaginaire lié au volume sonore, à tous les pouvoirs du son, tout ce que le son peut faire sur un corps. Et donc voilà, ici le sublime était plus lié à, enfin en tout cas la conquête de la résistance était liée à une domestication des émotions liées à la musique et une domestication de la peur par rapport aux effets de la musique. C'est clair ou pas mon histoire ?
Oui, oui, ouais. Je pense que ça pose la question dont on n'a pas parlé, celle de l'inconfort et de la douleur. Elle est importante parce que, bon, quelque part, la première réaction qu'on peut avoir en écoutant de la harsh noise quand on ne connaît pas, c'est alors d'abord peut-être de la gêne ou de l'inconfort auditif. Si on vous met en situation de concert, on parlait de Swan tout à l'heure, c'est pas vraiment de la noise, mais parler d'un groupe qui va jouer tellement fort que ça peut entraîner une douleur, hein, pour les auditeurs, et qui va même fermer la salle de concert à clé pour ne pas que les auditeurs en sortent si ça devient trop inconfortable.
Oui, et puis les risques liés au volume sonore sont pour certaines parties réelles.
Enfin, voilà. C'est pas simplement c'est pas des risques qui sont propres à la noise, puisque quelque part on peut se faire très très mal à un concert de reggae mal sonorisé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est revenu dans les réponses au questionnaire, la question de l'inconfort auditif. En même temps, c'est difficile de pas dire qu'il est lié de manière consubstantielle à la noise, ne serait-ce que parce que il y a tout un courant dans la noise, enfin, y a énormément de d'artistes qui cultivent cette idée de l'inconfort à travers les noms des groupes et des pseudonymes des performers, qu'à travers aussi
une imagerie,
etc. Donc cette question de l'inconfort et de la douleur, qui était aussi importante dans certains discours, on avait voulu la poser, en tout cas dans le questionnaire, puisqu'on avait posé, alors on a reformulé après, mais en gros c'était: y a-t-il un inconfort ou une douleur quand vous écoutez cette musique? Et si c'est le cas,
quelle est votre réaction face à cet inconfort?
Comment, là, en gros, c'est comment la gérez-vous, quoi? Enfin, comment vous positionnez-vous par rapport à cet éventuel inconfort ou cette éventuelle douleur? Et là, on a eu des réponses très différentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui répondaient très clairement, et on avait des stratégies, on en parlera peut-être après, par rapport à cet inconfort, voire à cette douleur, différentes stratégies mises en place, dont celle des bouchons d'oreilles. Il y aurait tout un traité à faire sur l'art de mettre des protections auditives dans les concerts, c'est tout à fait passionnant.
Pour écouter de manière pure un son impur et ne pas avoir de brouillage.
C'est quelque chose de vraiment très subtil, hein. Mais on a eu aussi des réponses extrêmement violentes.
On a eu un très faible nombre de réponses très violentes, en majuscule. Aucun inconfort, question stupide. Ou alors oui, simplement des onomatopées d'exaspération.
Vous nous prenez vraiment pour des tarés.
On n'est pas des masochistes.
Nous ne sommes pas des masochistes. Encore une question, en gros, d'intellectuel qui vient croire que...
qui veut nous faire passer pour des tordus.
Voilà, c'est ça. Alors, c'était en un certain sens compréhensible, parce que nous mettant dans leur position, ne sachant pas... D'ailleurs, notre démarche était anonyme. Ouais. Voilà, il y a le côté, bon, c'est qui, c'est de Sorbonnard qui arrive et qui pose des questions sur, à des gens qui écoutent de la noise en leur disant, ben voilà, vous prenez du plaisir à vous faire mal. Alors on s'est, du coup, plutôt que de se dire qu'ils avaient mal compris la question, on s'est demandé pourquoi ils réagissaient comme ça et en quoi ça pouvait être intéressant pour ce qu'on avait à dire. Alors l'idée qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que ce déni peut-être d'inconfort ou douleur, parce qu'un confort ou douleur, il peut y avoir, il n'y a pas nécessairement, bien sûr, mais il peut y avoir que le nier, c'est, je pense, être de mauvaise foi, mais que de le nier, ça montre aussi que il y a un souci de légitimité de la part de ces auditeurs là qui est extrêmement important.
Ouais, en fait, un des auditeurs disait est-ce que vous auriez posé la même question pour Xenakis? J'ai bien peur que oui. Et la comparaison avec Xenakis, c'était une façon de soupçonner un certain snobisme qui consistait à dire les auditeurs de Noise sont, je ne sais pas, pas sophistiqués, ou, tandis que pour les musiques savantes, on ne poserait pas ce genre de questions, de questions esthétiques relatives au plaisir.
Ce que ça montre aussi, c'est l'historicité de l'écoute.
Ouais.
C'est que, quelque part, il peut y avoir un confort, voire douleur dans certains cas, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Un confort, ça peut être psychologique. Douleur, il y a une dimension physiologique plus importante, mais il peut y avoir un confort, voire douleur au début, mais le sens s'éduquant, il y a une véritable éducation des sens dans le parcours d'un auditeur de noise qui fait que ce trait-là de l'audition devient complètement oublié et qu'on peut écouter du Merzbow de manière extrêmement irénique, tranquillement, même pour se relaxer au bout d'un moment. J'ai un ami qui faisait ses courses en écoutant du Merzbow aux écouteurs, il aimait beaucoup faire ça. Il avait l'impression d'être dans un cocon, il était confortable. Donc, quelque part, la question de l'inconfort et de la douleur devient étrangère, devient non opérante, non pas parce qu'elle n'est pas par principe, mais parce que ça montre qu'il y a une éducation de l'oreille, toute une éducation de l'écoute qui est aussi irréversible, quelque part.
Oui, notamment quand j'ai fait l'entretien avec John Viz, qui est un musicien qui a travaillé à peu près avec tout le monde dans la scène noise. À un moment, j'ai commencé une question par le bruit traditionnellement défini comme son indésirable. Et il s'est arrêté sur cette phrase et a dit « Mais je ne suis pas d'accord, le bruit n'est pas un son indésirable. Si je veux l'écouter, ce n'est pas un son indésirable. » Et cette réaction elle-même qui était faite en réponse à une définition commune, c'est-à-dire que je n'adhérais pas à la définition du bruit comme son indésirable, mais cette réaction un peu épidermique qui était pour moi intéressante parce qu'elle permettait de montrer comment une distinction aussi classique que la distinction bruit-musique devenait inopérante pour des auditeurs et musiciens tellement familiarisés avec ces genres que des distinctions classiques et opérantes en histoire de la musique leur semblent complètement obsolètes. Et oui, en effet, on retrouvait aussi cette question de gommer l'historicité de l'écoute, postuler une naturalité là où, dans la plupart des cas, il y a eu une éducation. Ce qui se confirmait d'ailleurs dans la réponse à des questions qu'on posait sur les premières réactions à l'écoute de la noise. La plupart des auditeurs avaient eu des réactions de surprise ou d'étonnement, ou alors de rire. Vraiment l'idée d'une incompréhension, de l'incapacité à intégrer une expérience en tant que telle et à en dire quelque chose. Mais alors même qu'ils avouaient avoir eu une première expérience d'écoute déstabilisante, la distinction bruit-musique était pour eux devenue complètement inopérante. Donc voilà, ça nous semble intéressant de voir comment la catégorie de bruit elle-même finissait par disparaître pour des auditeurs habitués.
Et on en revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est que dans cette écoute noise, on trouvait vraiment cette idée que ce que l'auditeur noise visait, d'ailleurs qu'il soit engagé dans un rapport... physiologique, anatomique à son plaisir, ou voilà, sur des métaphores peut-être plus romantiques du combat et du sublime. À chaque fois, ce qui est visé, c'est ce qu'on trouvait. Alors, on s'est beaucoup intéressé à un documentaire sur la noise qui s'appelle People Who Do Noise, qui a été fait par Adam Cornelius sur la scène de Portland. Et il y avait toujours cette expression qui revenait, c'était celle de pure sound. Alors, c'est pas son pur, c'est vraiment le pur son. Ce qui intéresse quelque part beaucoup d'auditeurs noise, c'est cet accès au pur son. Non plus le bruit non plus le son musical, la note de musique, l'harmonie, mais le son dans sa pure matérialité. Et c'est ce qui fait que paradoxalement, on en parlait pour la question des protections auditives, là même où on écoute quelque chose qui semble reposer sur une mise en évidence du brouillage, de l'accident, parce qu'il y a toute une culture de l'accident, du bending, du détournement,
de laisser les machines faire
et de pas en amont contrôler la composition, alors même qu'on est là-dedans, il y a tout un culte de l'immédiateté et de l'accès pur au son, qu'il ne faut pas brouiller les conditions de l'écoute.
Très peu écouter des MP3 par exemple. Il faut tout de suite format AIFF ou des formats à haute résolution ou du vinyle, mais il faut un accès pur sans médiation.
Dans la salle de concert, on va chercher le sweet spot, c'est-à-dire bien voilà, la position entre les deux haut-parleurs. On va être très conscient de la manière dont on écoute cette musique, alors même qu'on est en train justement d'écouter du bruit. Et ça peut paraître complètement paradoxal. Ça l'est plus si on comprend que ce qu'on recherche, c'est le son dans sa pure matérialité absolue, et qu'on veut des conditions d'écoute qui permettent d'accéder à cela. Et que c'est une expérience extrêmement forte, qui n'est pas du tout l'accès à un son pur, précisément. Alors, c'est ce qui fait aussi qu'il y a un côté élitiste dans l'écoute de la noise. C'est une musique d'initié, c'est une pratique d'initié. On rentre dans un concert de harsh noise, les gens sont généralement statiques, extrêmement concentrés, assis très souvent,
ou en tout cas
ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire qu'il y a très souvent dans un concert de harsh noise, on sent que c'est quand même une écoute assez intellectuelle, quand bien même elle va dans les discours se décrire comme très physiologique. Il y a cet aspect élitiste et très intériorisé qui est très frappant. Pourquoi ? Parce que je crois que voilà, il y a cette idée de viser le son pour lui-même, et c'est peut-être sur ce point-là que le public noise retrouve certains éléments propres aux musiques expérimentales du début du XXe siècle, qui elle aussi hein, cherchait cet accès au son visé pour lui-même, visé sous toutes ses formes, dans sa plasticité. Là, je crois qu'il y a aussi une continuité parfois inaperçue entre ces deux moments.
Hein. Oui, et peut-être le dernier élément dont on n'a pas parlé, mais qui fait contrepoint à cette idée de la douleur, du masochisme que les auditeurs pensaient qu'on leur prêtait, c'est toute la question de l'éducation, de l'écoute, non seulement au sens de l'historicité, mais au parcours individuel, mais aussi au sens où il y a une véritable culture de l'écoute, culture de l'expérience esthétique, préparation de l'écoute en concert, préparation des supports d'écoute. Tous ces éléments sont extrêmement réfléchis. Et il y a une conscience et une préparation de l'expérience esthétique elle-même, et tout sauf une écoute distraite ou une écoute qu'on prête souvent aux musiques populaires, qui serait une écoute un peu de l'ordre du divertissement. Là, au contraire, on a vraiment une culture d'esthète et de préparation de l'expérience esthétique.
Peut-être parler de la manière dont on a rapidement parlé de l'inconfort et de la douleur. Je traitais des réponses un peu virulentes, mais toi, tu as travaillé notamment sur la manière dont on gérait cet inconfort et dont on parvenait à l'intégrer à l'expérience. Peut-être est-ce que tu veux parler un peu des différentes stratégies mises en œuvre.
Oui, alors, dans cette éducation, dans cette préparation de l'expérience esthétique, il y a un développement de la connaissance du corps propre aussi, avec des auditeurs qui sont très au courant de leur seuil, de ce qu'ils sont capables de tolérer ou non, qui savent très bien combien ils peuvent s'exposer à un haut volume sonore, à quel type de fréquence, quel temps de repos il leur faut après. On a eu des réponses très précises sur toutes ces questions. Donc la gestion repose à la fois sur cette connaissance physiologique très précise, et puis aussi sur ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, la domestication d'un imaginaire, de toutes les peurs qui peuvent être liées à l'écoute. Et le rapport à la douleur, on l'a vu, était très chargé de peur et d'imaginaire du risque. Les auditeurs parlaient énormément d'avoir appris à domestiquer, appris à gérer, avec des métaphores de se brûler. Avant, je me brûlais, maintenant ça n'arrive plus. Je sais m'éloigner quand il faut. Donc toute une thématique du corps propre, thématique aussi de l'imaginaire, du risque, c'est-à-dire que si la physiologie, elle, n'est pas traiter comme une donnée qu'on peut historiciser. Enfin, on ne peut pas domestiquer les seuils physiologiques, même si certains prétendaient être capables de fermer leurs cils auditifs eux-mêmes, enfin, donc la maîtrise vraiment très loin. Si les seuils physiologiques apparaissent comme voilà, des seuils impossibles à déplacer, en revanche, le rapport à ces sons et l'interprétation qui en est faite et tout l'imaginaire qui est lié est lui domestiqué. Donc la domestication se fait sur cet imaginaire-là, sur toutes les peurs. John Vis aussi qui disait je n'ai plus peur maintenant. Avant, je pensais que mon cerveau allait se décrocher, ou maintenant, je sais très bien, je n'ai plus peur.
Quelque part, ça répondait à la question qui s'était posée à quand on était. Je t'avais raconté l'anecdote sur les flûtes baroques. On avait eu cette impression qu'on avait l'esthétique qui se greffait directement sur l'acoustique ou le physiologique. Et en fait, en lisant les témoignages d'écoute, on s'est rendu compte qu'un auditeur noise, ça écoute comme n'importe quel auditeur, c'est-à-dire que ça devient esthétique quand il y a de l'imaginaire qui est en jeu. Quand la question de l'expérience sensible est médiatisée par des images, et pas seulement des images, mais réellement un imaginaire qui est parfois extrêmement construit, qui n'est pas que musical, mais qui est un imaginaire alternatif par rapport à la culture musicale savante ou même populaire traditionnelle. Donc ce qui nous a intéressé finalement, notamment à travers la question de l'analyse des schémas corporels qui étaient engagés, c'était moins de décrire factuellement ce qui se produisait que quel type d'imaginaire était convoqué pour arriver à passer le seuil d'une expérience esthétique. Autrement dit, quand est-ce que l'écoute du bruit peut devenir une expérience esthétique? Dès lors, assez classiquement, dès lors qu'un imaginaire est mis en jeu. Et que c'était ce rôle des images dans les discours qui nous a semblé extrêmement, extrêmement frappant, en fait.
On a plus ou moins fait le tour des
thèmes. Alors, il y avait la question d'écrire à deux. On voulait en toucher deux mots. Je ne sais pas si ça vient de manière un peu adventiste sur...
On peut peut-être en parler
dans la discussion. Ouais. En fait, je crois que les thèmes se sont répartis assez naturellement en fonction de nos domaines de recherche respectifs. Toi, la question de la douleur, forcément, c'était quelque chose de central parce que c'est quelque chose que tu traites beaucoup dans ta thèse. Moi, la question du vocabulaire qui était utilisé, du type de qualificatif qu'on allait employer pour viser les sons, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que Pierre Schaeffer, il développe tout un solfège des objets sonores, donc ça m'intéressait.
Je me suis pas mal occupée de l'éducation de l'écoute, de l'histoire... de l'écoute.
Et des entretiens.
Oui, peut-être qu'il faut dire un mot de ça, mais j'avais l'habitude de faire des entretiens en tant que journaliste avec des musiciens, et là, c'était un cadre un peu différent, puisque le but, c'était pas simplement de collecter des informations, des témoignages sur un artiste ou sur son processus créatif ou sur ses sorties de disques, mais vraiment d'avoir en vue la question de l'écoute en tant qu'elle oriente la composition ou l'improvisation, puisque c'est souvent des musiques improvisées, et puis comment cette écoute musicienne de Noiseux est à l'œuvre le reste du temps. Donc là, j'ai essayé de faire des questions qui conciliaient à la fois la spécificité des approches de chacun et puis en même temps qui rejoignaient des thèmes qui s'étaient dégagés tout au cours de l'ouvrage.
Donc au final, le livre a une forme assez, enfin une forme, on va dire binaire un peu, même si le terme est généralement péjoratif. Il y a une première partie qui est un essai, qui correspond en fait à ce qu'on a pu interpréter des questionnaires et des entretiens, qui se veut une tentative d'élucidation, enfin en tout cas de description de cette écoute noise en arrivant à la conclusion qu'il y en a. Il n'y en a pas une, il y a des écoutes noise, mais qu'il y a des régularités qui se dessinent à travers les discours qu'on a pu collecter. Et la deuxième partie de l'ouvrage à paraître, donc c'est les entretiens qui ont été effectués par Catherine et des exemples de questionnaires. Alors on a choisi quatre
des cas paradigmatiques.
Ouais, voilà. Alors c'est-à-dire aussi bien l'expert qui va décrire d'une manière avec une totale acribie l'expérience physiologique d'un concert de noise, des réponses beaucoup plus métaphoriques et poétiques, que quelqu'un d'assez violent dans ses réactions, qui nous dit que nos questions sont stupides, etc. Donc on a voulu effectuer comme ça un petit tour d'horizon, enfin une vue un petit peu synoptique plutôt des questionnaires qu'on a, des réponses aux questionnaires. Donc le livre a du coup cette forme en deux temps.
Oui, parce que l'idée était de laisser la parole aux auditeurs, mais 99 questionnaires, c'était quand même une masse assez importante. Donc paradoxalement, on a la parole presque autant que eux, mais on cite énormément notre partie essai et en fait une analyse des réponses aux questionnaires. Et puis dans la deuxième partie, on a voulu livrer des réponses brutes et laisser le soin au lecteur de tracer ensuite des échos entre les différentes parties, voire des thèmes récurrents. Voilà.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie. Oui, ça.
J'ai une petite question, et après je vais filer parce que j'ai justement un penseur de fourmis qu'on va me dire qu'elle. Mais quand vous disiez qu'il n'y a pas de place, quand vous faisiez l'opposition entre la musique pour divertissement, enfin la musique commerciale qu'on écoute avec un peu de distance, et l'attention qu'on porte à la musique naze, est-ce que cette attention n'est pas nécessaire finalement, et est-ce qu'elle ne permet pas d'interroger de cette musique même pour les amateurs de cette musique? Parce que le fait d'être attentif, c'est le fait aussi de ne pas se... c'est aussi une certaine prise de distance dans l'attention pour justement contrôler l'écoute avec cette musique-là. Et donc, est-ce que ça ne révèle pas aussi... est-ce que la musique même ne pourrait jamais être une musique qu'on écoute en fond ou qui serait accessible à tous, en fait? Ça restera toujours une musique...
Alors, en effet, dans les questionnaires, je suis pas sûre, moi personnellement, je suis pas sûre que je répondrais ça, mais ce qui se dessinait dans les questionnaires, c'était en effet l'idée d'une culture de l'attention, d'une capacité très précise à qualifier les sons, à qualifier les formats, mais en même temps, paradoxalement, une tendance à gommer complètement la spécificité de la noise en ayant un double discours qui était de dire, en effet, on cultive notre écoute et on a un vocabulaire très qualifié, très cultivé, mais en même temps, on écoutait ça ou classique. On a eu ça comme réponse, j'écoute ça, c'est comme du classique, j'écoute ça pour faire la sieste.
Oui, on a eu ça. Donc, j'écoute ça pour dormir.
Ouais, à la fois, ouais, voilà.
Bon, après ça, je pense que écouter pour dormir, c'est moins la question du divertissement que presque la vision de presque, je dirais pas New Age, mais l'idée de la musique dans sa dimension thérapeutique, dans la mesure où il y a une forte idée d'immersion, de l'importance du physiologique. Il y a aussi l'idée que les sons massent, les sons agissent sur le corps, et donc il y a un effet très, très concret, qui est que ça peut faire dormir, ça peut faire mal. L'anecdote de cette amie qui avait assisté à un concert, alors là aussi, c'est pas exactement de la noise, mais quand même, c'est sono, avec un bras dans le plâtre et une fracture de l'avant-bras. Faut pas le faire, hein. Ça fait très très mal. Donc l'idée que le son a réellement un effet sur le corps et que du coup, ça peut faire dormir au sens où ça endort, concrètement. Donc c'est pas au sens du divertissement. Mais oui, après, je crois que c'est cultivé par beaucoup d'auditeurs, hein. Alors même que c'est très physiologique, il y a cette idée d'une écoute attentive, experte, voire élitiste. Et elle développe un vocabulaire qui est tout à fait précis, qui est alternatif aux qualificatifs musicaux traditionnels. On va pas parler...
Bah souvent très acoustique, en fait. Très acoustique, en termes de fréquence,
voilà.
en termes de
matérialité.
De décibels. Ouais.
Beaucoup d'idées de grains, de textures, vocabulaire qu'on trouve beaucoup dans l'électroacoustique, hein, qui est visé pas nécessairement de manière experte. C'est-à-dire que vraiment le concept de grain en électroacoustique, il a un sens très précis. Là, on va parler de la musique dont le son, l'idée d'un son qui s'égrène, hein, beaucoup l'idée de rugosité, de textures différentes ou de strates, l'idée d'une musique en trois dimensions dans laquelle on s'enfonce également. Donc c'est un vocabulaire qui est très précis, qui est extrêmement soigné, mais qui est alternatif par rapport au qualificatif traditionnel du solfège et de la musicologie.
J'ai simplement une question. Je connais ça. Est-ce qu'il y a des voix également dans la naïs? Est-ce qu'il y a l'utilisation des voix?
Ça peut arriver. Ouais. Du cri, souvent, ou alors de la voix traitée qui se mêle aux autres instruments, avec un micro qui sera ensuite saturé, ou
mis à part
Daniel Mensch qui enregistre son chien, et ensuite traite les sons. Ça peut être des voix humaines, mais le sens de voix comme quelque chose d'expressif qui porterait une mélodie, non.
Il y a une mise à plat, en fait. C'est-à-dire que la voix va souvent être utilisée comme n'importe quel élément sonore. Dans la mesure où il y a ce passage à la limite où que tout son est pertinent, comme son potentiellement musical. Alors, il y en a qui refusent de parler de musique dans les questionnaires, pour qui le terme musique n'est même plus pertinent. D'autres qui continuent en disant bah, « si, c'est de la musique », d'où l'idée de « noise music ». Et la voix rentre dans ce processus-là, c'est-à-dire la voix humaine, la voix chantée, non, mais comme n'importe quelle donnée acoustique pertinente, pourquoi pas la voix.
Commun, qu'il faudrait, au contraire, qu'il faudrait évincer absolument, non, parce que ça...
Pas spécifiquement.
Parce que ça empêcherait une immédiateté du son.
Non, mais elle est en général traitée.
Oui.
Je suis sûre que vous avez des questions.
Sur le sublime.
Vous interviewez des danseurs professionnels, je dirais, des danseurs de ballet. Je propose votre corps, etc.
Ça aurait du sens, mais c'est vrai que... Alors, il me semble que Ikeda a fait quelque chose avec de la chorégraphie.
Peut-être.
Mais pas en tout cas dans la scène qu'on a étudiée, nous, qui est relativement marginale, qui a lieu dans des espaces assez petits aussi, en fait, pour des raisons matérielles. Ça se fait pas trop, mais ça aurait du sens en effet, puisqu'il y a une écoute qui est très corporelle. Ça aurait du sens, oui. Mais je pense que c'est des questions de milieu aussi, qui communiquent peut-être pas tant que ça. Non, j'ai pas eu connaissance de ça. Mais.
Moi, j'ai l'impression que, parce que je vais souvent à des concerts de noise, mais plus dans le noise rock, enfin, comme System of a Down, je sais pas si ça appartient à ça.
Il y a Lionel Fernandez dans les entretiens.
Et
justement, ouais.
Du coup, là, enfin, des concerts de System of a Down, que ce soit à la station ou dans Sanchez Viré, les gens dansent, enfin, il y en a beaucoup qui dansent. Sanchez Viré, un mec qui est plutôt sérieux aussi. C'est une salle de noise. Où les gens, comme ça, des fois, c'est sérieux, mais quand c'est un groupe comme System of a Down, du coup, avec y a des instruments acoustiques, ou là, moins dans la noise électronique, où c'est plus sérieux, justement.
Ouais, et justement, ben, c'est un cas problématique, System of a Down, parce que. Ils se définissent pas eux-mêmes comme faisant de la noise.
Oui, ça c'est un autre problème.
Ils disaient, on déconstruit le rock. Alors que pourtant, quand on en écoute, bon, on reconnaît quand même que c'est fait par des guitares, mais pas forcément, parce que c'est des bruits de déflagration, des bruits... Ouais.
Et l'expérience en concert, en cela, c'est intéressant de les confronter. Il y a l'écoute en live et l'écoute chez soi, une écoute acousmatique, en fait, où on n'a pas la vision de la source du son. C'est assez différent parce que sur le même groupe, le fait de voir des guitares et de voir des instrumentistes engage un rapport à la scène qui est tout à fait différent d'une écoute au casque, par exemple. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'auditeurs noise écoute au casque, ce qui est assez intéressant parce que l'écoute au casque, c'est vraiment l'écoute interne par excellence, l'écoute solitaire, l'écoute analytique. Sur un même groupe, on peut avoir une expérience d'écoute très différente en fonction de la situation.
Et même dans une même situation, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à des concerts, mais c'est quelque chose dont parlaient les témoignages aussi, c'est que comme c'est des musiques qui ont assez peu de points focaux, de points sur lesquels on peut s'accrocher, on va avoir des gens qui repèrent des régularités différentes. Et s'il y en a un qui va s'attacher à tel rythme immanent... il y en a un autre qui va en repérer un autre et on va avoir des mouvements corporels complètement décorrélés entre ça arrive à des concerts de voir des gens qui ne sont pas du tout sur le même rythme mais parce que tout simplement C'est une construction ou un repérage de régularité qui n'est pas, voilà, qui est pas donné.
Ça me fait penser, tu sais, à cette citation. Il y avait un auditeur qui décrivait l'expérience d'un la manière dont il visait le son et dont il repérait des formes dans le son. Il disait, il expliquait très bien qu'il était face à une masse sonore dans laquelle il pouvait soit fixer son écoute sur de grandes ondulations dans le spectre sonore, repérer une grande forme plus ou moins évolutive, plus ou moins, qui pouvait éventuellement être répétitive, et se fixer dessus, mais que dans face au même phénomène, il pouvait aussi aller viser des micro-événements avec une rythmicité beaucoup plus rapide, des oscillations beaucoup plus hachées, et que son écoute pouvait au choix se fixer sur l'un ou l'autre de ces aspects du phénomène musical.
Et puis l'image des strates aussi dans un genre spécifique qui s'appelle le harsh wall noise, qui est vraiment un genre souvent toutes les fréquences et puis quelque chose de très statique, et où là on a l'image de l'excavation, de creuser dans la masse pour repérer différents niveaux. Et,
mais du coup, c'est là aussi où je crois que, enfin, quelque part, le point de notre essai, c'était de montrer que paradoxalement, face à la noise, l'écoute est obligée de développer des stratégies pour faire sens et faire forme. Et que quelque part, c'est une écoute extrêmement active, extrêmement experte, extrêmement labile et réflexive, précisément parce qu'elle est face à un objet complexe et apparemment informe. Que face à un tel phénomène, ça demande une agilité et un apprentissage et un travail sur l'écoute d'autant plus important, totalement à l'encontre de ce qu'on pourrait croire sur le type d'écoute que ça sollicite. Loin d'être une écoute brute et sommaire, au contraire, c'est une écoute d'autant plus subtile et d'autant plus labile qu'elle est face à un phénomène qui demande à être exploré d'une manière indéterminée, en fait. Ouais. Faut construire son écoute, en fait.
On retrouve Russolo, l'idée que voilà, les sons, les bruits ont des rythmes, les bruits ont des fréquences, mais qu'il faut une éducation pour réussir à les repérer et à trouver un ordre dans ce qui, en apparence, n'en a pas.
Sachant qu'il n'y a pas d'ordre préétabli, que contrairement à une musique composée qui, bon, même s'il y a toujours une ouverture, une indétermination fondamentale dans toute musique, mais qui quand même se fixe sur des normes musicales qui sont posées en amont, cette écoute, elle est toujours à construire. Et que cette normativité des écoutes noise, parce qu'il y en a plusieurs, elle est toujours en devenir, et que quelque part, ce que le questionnaire nous donnait à lire, c'était ça. C'était la manière dont des écoutes arrivaient à se construire, arrivaient à se définir avec des profils effectivement saillants, mais qui étaient toujours irréductibles à une façon de viser la noise.
Il y a aussi le cadre qui est très important, parce que l'acoustique de la salle aussi, ça joue énormément, parce que le même concert peut être horrible et excellent selon là où on se trouve.
Oui, et on a pas mal insisté aussi sur cette idée du... c'est souvent des musiques improvisées. Bon, Sister Yodine, typiquement, c'est des compositions, mais en concert, elles sont étirées. Mais l'importance de l'ici et maintenant, et le fait que c'est toujours des performances uniques qui se jouent dans un lieu, et le thème de l'intensité qui est lié à ça, au fait que c'est une expérience incarnée dans un lieu, dans un temps, et avec une importance des sens du contact, par opposition à ce qui serait plus une composition. De quoi ?
Je te laisse ça.
Ben, la réponse la plus simple, je pense que ce serait que dans le noise rock, le bruit intervient comme bruyage d'un signal qui est encore présent, puisqu'on a généralement de la mélodie. Je ne sais pas, que ce soit chez Lightning Bolt ou chez Sonic Youth ou chez My Bloody Valentine. Bon, après, moi, je la trouve assez vaste, cette notion de noise rock, puisque entre My Bloody Valentine et Sister Yodine, il n'y a pas grand-chose de commun. Mais on garde en vue le signal, et la beauté ou l'intérêt naît de la tension entre un signal qui cherche à émerger et le brouillage. Là où, dans la harsh noise, justement l'opposition signal-bruit n'est plus pertinente, puisque tout bruit devient signal, enfin, tout son devient pertinent. Voilà, ce serait une manière de répondre... Parce que en effet, la question de l'instrumentarium n'est pas pertinente. On a de la harsh noise. Typiquement, Yellow Swans, c'est deux guitares qui sont laissées en circuit avec les effets et les boucles qui se saturent elles-mêmes. Donc l'instrument n'est pas une distinction pertinente. Donc ouais, je pense que ce serait sur cette...
En fait, oui, il y a des effets typiquement noise, le Larsen, le fuzz, etc., qui sont utilisés dans toute l'histoire du rock. Le propre de la harsh noise, c'est d'en faire l'objet même de l'écoute. C'est que c'est plus la perturbation à partir de, qui vient brouiller le signal. C'est que...
On écoute la perturbation pour elle-même. Et quand il y a signal, souvent, il est déjà perturbation, que ce soit une mélodie faite à la base d'un Larsen ou...
Qu'est-ce qui est différencie donc du coup de la noise du drone, par exemple ?
C'est pas évident. La question de l'inconfort peut-être ?
Ouais, mais je pense qu'en général, le drone garde pas toujours des hauteurs, mais c'est quand même assez fréquent qu'on ait des hauteurs et qu'on ait un. Ça reste souvent harmonique, ouais. Le drone. Après, quelqu'un comme JX Jupiter Larsen de Haters font des albums de drone aussi, mais je pense que ce serait plus la question du chaos, c'est-à-dire que dans le drone, on a une continuité. Et ce qui est intéressant, c'est justement l'expérience de la durée, là où la noise est constamment changeante et improvisée. Et le drone permet de s'installer dans quelque chose, même si c'est quelque chose qui évolue doucement. La noise n'a pas d'évolution, c'est une suite d'accidents. Je pense que ce serait dans cette question de la linéarité qu'il faudrait chercher, et dans le rapport à la durée. Il n'y a pas de durée dans la noise.
Même les auditeurs qui répondaient à notre questionnaire n'étaient pas forcément clairs sur ces
distinctions. Oui, ils citaient Sun.
On disait quel type de harsh noise écoutez-vous. Ils citaient Suno, qui c'est pas de la harsh noise. Bon, après, la question, elle n'est pas de distribuer quelque part en amont ce qui est de la harsh noise, ce qui n'en est pas. C'est intéressant aussi que dans leur écoute, les auditeurs ne différencient pas forcément leur expérience de la harsh noise, de l'expérience du drone. Qu'est-ce que ça nous dit de ces musiques-là, quelque part ? Donc le but, c'était peut-être pas de... Dans l'article aux éditions de La Tour, il y a un petit peu cet aspect-là où on cherche à opérer une distinction.
Mais pas à essentialiser le genre non plus. C'est et ça. À voir que les écoutes peuvent elles-mêmes contribuer à construire les genres.
Ça, c'est un peu le point... C'est aussi un point peut-être épistémologique dans notre approche. Enfin, c'est de se dire... En tout cas, en termes de positionnement esthétique, c'est de se demander en quoi l'écoute définit le genre. Un genre musical, ça peut être défini par un manifeste, par une décision compositionnelle, mais jusqu'à quel point les écoutes elles-mêmes contribuent à créer le genre. Et là, on le voyait vraiment dans le cas de la noise. Et d'ailleurs, il y avait une perméabilité qui faisait que la plupart des auditeurs de noise, en tout cas des auditeurs fidèles, sont aussi des musiciens, sont aussi des performeurs, ou ont au moins touché à des machines, ou au moins essayé de faire ce genre de choses une fois dans leur vie. Et le fait qu'il y ait une porosité entre le plan du performeur et celui de l'auditeur, en cela, était assez intéressant. J'ai dérivé.
Non, mais... Oui, en effet, on n'a pas voulu traiter de manière distincte les... Enfin, cette porosité entre les performeurs et les musiciens... nous a pas empêché d'isoler quelques artistes qui ont une production plus vaste, mais en effet la différence performeur-auditeur est souvent caduque puisque une énorme majorité des personnes interrogées avaient une pratique musicale.
On avait posé la question, oui.
Ouais.
Si pratiquez-vous ce type d'art sonore, de musique,
ce qui va avec la culture du do-it-yourself et le fait que voilà, c'est une musique qui s'oppose à l'idée d'une formation musicale requise pour créer.
Un chanteur qui a écrit des choses qui encouragent la violence, encouragent des cocaïnes dans son musique, et puis il est interdit par le gouvernement. Ainsi, je voudrais savoir, il y a des musiques qui n'est pas si bon pour la société ou pour des gens, et il y a aussi des musiques des noisies qui va causer des mal psychologique, même biologique. Est-ce que des musiques comme ça méritent encore d'analyser ou si on doit étudier ou analyser des musiques comme ça, quelle attitude on doit comporter pour
Alors, sur la noise, il y a assez peu d'approches de ce genre-là, ouais. Peut-être parce que c'est un genre très marginal. Mais en revanche, il y a beaucoup plus de polémiques autour du métal extrême, du Hellfest et tout ça. Et les études sociologiques sur la question montrent qu'au contraire, c'est généralement des publics très, très, très civilisés qui écoutent des choses très peu civilisées. Mais qui a une sorte de catharsis qui fait que justement, enfin, j'ai un ami sociologue, Jérôme Guibert, qui a travaillé sur ce festival et qui sur le Hellfest, et où les personnes chargées de la sécurité lui disaient qu'elles n'avaient rien à faire, mais vraiment rien, parce qu'il n'y avait aucune violence, parce que la violence était dans la musique et pas dans les comportements. Donc je pense qu'il faut faire attention avec les discours déterministes.
Après, la manière dont... Enfin, on n'a pas trop eu l'occasion de parler de la Japanoise, parce que la Arch Noise, et puis il y a cette frange particulière de la Arch Noise qui serait la Japanoise. En fait, ça dit juste que le mouvement Arch Noise, dans les années 80-90, il naît spécifiquement au Japon, notamment à travers ce qu'on a écouté tout à l'heure. Un artiste comme Ernst Bo est tout à fait emblématique de ça. Et quelque part, il y a l'idée que dans une société extrêmement violente et bruyante... on va faire le silence et retrouver la paix par le bruit, en détournant ou en utilisant précisément la violence de cette société, en la retournant sur elle-même pour l'intérioriser, l'accepter et en faire une expérience esthétique contrôlée. Enfin, contrôlée, non, parce qu'il y a une culture de l'accident, mais acceptée et volontaire. Donc il y a une réflexion, quelque part, politique il y a une réflexion sur la société, mais qui est déjà esthétisée,
puisque l'idée, c'est de dépasser le bruit de la ville par le bruit de la noise qui imposerait une sorte de silence par la saturation totale.
Il dit je veux faire le silence avec le bruit. C'est ce que dit Merzko. Je veux faire du silence avec le bruit.
Mais sur les effets de cette musique, en effet, on n'a pas... Non. Manque d'études.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de notre discussion de manière plus informelle.
Sans fil.
Merci beaucoup, Pauline Adrien et Catherine Guette, pour
merci à vous.
Vos réflexions.